Bill, il fait pleurer les enfants. Okay. Bonjour tout le monde. J'ai entendu 24 qui ont dit bonjour. Les autres, vous êtes là, oui? Bonjour. C'est bon de vous voir ce matin. Ce matin, on a de la visite qui vient de l'autre côté du fleuve, un petit peu plus loin. Jean Koumariana, il est caché où ce matin? Ah, il est caché là en arrière. OK. Moi, je connais Jean depuis 1997. On s'est connus à l'aéroport, comment ça s'appelle ça? Voici Charles de Gaulle, c'est ça. J'avais mon nom écrit, puis lui, il vérifiait, puis tout à coup, whoop, on s'est rencontrés, on était allés là-bas pour passer un mois, une tournée qu'on avait faite dans 9 et 10. On s'est promené un peu avec Jean, il nous a emmenés un peu partout dans la ville, puis il nous a fait peur avec le trafic. En tout cas, on a vécu toutes sortes de choses. Jean, il est un fruit du travail de Alain Choiquet, qui a... Il y a de ça 30, presque 40 ans. Il est encore jeunesse, mais ça fait 40 ans de ça. Jean est marié à Annie, docteur Annie. On l'appelle docteur, mais professeur. Elle enseigne. Et 4 garçons, probablement des petits-enfants maintenant. Combien? 6. 6 petits-enfants. Jean est à l'œuvre depuis près de 28 ans à l'église Paris-Nation, là où... Mme Choiquet, qui était ici il n'y a pas tellement longtemps, fréquente aussi cette église-là. Et le message ce matin qu'il y a à nous présenter, c'est la persévérance dans la foi. Alors, j'inviterai Jean à venir nous présenter ce message, la persévérance dans la foi.
Merci, Jean. Bonjour à tous. J'ai beaucoup de plaisir à me retrouver parmi vous, à regarder vos visages, à voir des visages connus, comme ceux de nos bien-aimés qui partent en Gaspésie, les Vénards, la belle Gaspésie, et puis aussi de nouveaux visages. Alors je suis dans la belle province depuis le 28 septembre, et j'ai eu l'occasion de monter à Gérardville, et puis évidemment le Saguenay, hein, Chicoutimi, la baie Jonquière, puis après je suis passé sur Baie-Comeau. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de travailler avec les frères à Baie-Comeau. Et puis ensuite, ben, je suis redescendu sur Québec, et puis ben, Sainte-Foy, Saint-Jean-Chrysostone, et puis je ne sais plus quoi. Et puis là, ce matin avec vous, et puis je vais terminer dans... Enfin, je repars sur la Tuque, sur Sainte-Marie-de-Beauce, puis après je vais terminer cette tournée dans la Mauricie. C'est-à-dire Trois-Rivières et puis Shawinigan. Et après, je m'envole. Mais 3 jours après, j'aurai posé les pieds en France, je vais m'envoler de nouveau pour aller sur l'île de la Réunion pour 3 semaines de tournée pour l'évangélisation, l'édification, puisque j'ai été invité par la pastorale des églises évangéliques de l'île de la Réunion. Alors, merci pour vos prières, pour cette tournée ici au Québec, et puis, si vous avez un peu de temps, pour donc la suite sur l'île de la Réunion. L'église de Paris-Nation m'a chargé de vous transmettre ses salutations. Mon épouse, qui a l'honneur de vous connaître, mais qui n'a pu se joindre à moi pour ce voyage, m'a aussi demandé de vous saluer. Et j'aimerais ce matin vous dire combien je suis heureux de tout le déroulement de la première partie, la partie de l'adoration, parce que ça correspond tout à fait à ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'ai plusieurs messages quand je viens en tournée. Et ce matin, j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut vraiment leur apporter? Et puis, le Seigneur m'a mis à cœur donc ce chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, versets 1 à 13, qui va tout à fait dans la continuité de ce premier moment du culte, ce moment d'adoration, où nos regards ont été tournés vers le Seigneur souffrant sur la croix, s'offrant pour nous. Et donc, nous allons continuer dans cet esprit. Je vous invite donc à ouvrir la parole du Seigneur, chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, pour y lire les versets 1 au verset 13. Le texte inspiré nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie ? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Comme vous le savez, dans les Saintes Écritures, le salut par la foi qui nous justifie, est étroitement associé à ce que l'on appelle aussi la foi-fidélité. Et le texte que nous venons de lire ensemble, et qui est précédé par évidemment les chapitres que vous connaissez, chapitre 11, avec l'exposé de toute cette nuée de témoins, nous parle de cet aspect de la foi qui est lié évidemment à la foi qui nous a justifiés, la foi en Christ. Quand nous sommes sauvés, Dieu met en nous sa vie et va donc nous conduire de la même manière qu'il s'est lui-même conduit, comme nous venons de le dire, dans un ministère de fidélité. C'est l'expression d'une authentique foi, être fidèle à Dieu, donc persévérer. Nos auditeurs hébreux, nos correspondants hébreux, avaient été félicités au chapitre 10, où je vous invite à vous rendre, pour y lire quelques versets, à partir du verset 32 jusqu'au verset 39. Ils avaient été encouragés, leur effort avait été reconnu, mais ils avaient quelques interrogation concernant leur engagement et en quelque sorte est-ce que ça valait vraiment la peine de souffrir comme ils ont souffert pour Christ. Certainement que vous ne vous êtes jamais posé cette question. En France, ça nous arrive de nous poser cette question. Face à l'opposition, face à la difficulté, face aux contrariétés, face à toutes ces situations que nous pouvons rencontrer, parfois, je rencontre des frères et des sœurs qui se disent « Mais à quoi bon ?» Et c'est tout à fait le thème de notre épître aux Hébreux. Il est dit au verset 32 du chapitre 10 « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat. Au milieu des souffrances, d'une part exposés comme en spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous aviez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voilà que dans ce passage d'une expression, d'une consécration de ses auditeurs, de ses correspondants, on retrouve ce fameux verset qui est à l'origine de la réforme et du réveil spirituel donc de Martin Luther et autres, « Et mon juste vivra par la foi ». Verset ô combien excellent et cardinal pour l'affirmation du salut par grâce, par la foi seule et par Jésus-Christ seul. Et là, on le retrouve dans le cadre, ce verset, on le retrouve dans le cadre de la foi-fidélité. Comme dit l'apôtre Paul, de la même manière que vous avez reçu Christ, marchez en lui. Il est évident que pour marcher dans la vie chrétienne, c'est aussi après la foi pour être sauvé, c'est la foi pour être persévérant et pour avancer dans la sanctification. Et le principe est toujours le même. Mon juste vivra par la foi. Nous sommes justes en Jésus-Christ et nous devons, vous et moi, toujours compter sur la foi et porter nos regards sur le Seigneur, comme cela nous est indiqué dans notre texte, par la foi pour avancer. C'est donc l'expression de l'endurance qui est mise à l'épreuve par la souffrance. Avec une indication nouvelle par rapport au chapitre 11, c'est que nous devons porter nos regards sur Jésus. Après tout, nous sommes invités tout au long du chapitre 11 à considérer des hommes et des femmes de l'Ancienne Alliance qui sont des modèles, des exemples de vie consacrés, de personnes qui ont choisi de servir le Seigneur. Pour certaines d'entre elles, elles ont réalisé, au travers de ce que Dieu leur a accordé, des succès spirituels. Pour d'autres, elles ont été malmenées, voire sciées, voire prisonniers, et ils n'ont pas vu ce qu'ils espéraient. On a donc deux volants dans ce chapitre 11, ceux qui ont eu de la réussite grâce à Dieu, puis ceux qui ont souffert à cause de la foi et qui ont une vie d'épreuves, de difficultés. Et voilà que l'Esprit-Saint va choisir ces exemples pour encourager ces chrétiens qui se posent cette fameuse question, mais que c'est dur d'être chrétien dans un monde qui s'oppose à la foi. Alors depuis que je suis au Québec pour cette tournée, je regarde le journal du Québec et... ou de Québec, je ne sais plus quel est le titre, mais je vois de ces choses, de ces événements dans votre pays, comme hélas ça arrive en France, et je me dis que effectivement, si on ne regarde pas et si on ne porte pas les yeux vis-à-vis du Seigneur et sur le Seigneur, on aurait mille et une raisons de se décourager. Mais voilà qu'il me semble que l'époque que nous vivons ressemble pour l'Ancien Testament à la période des juges. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'était une décadence spirituelle à cette époque-là. Mais Dieu a fait en sorte que 7000 ne plient pas le genou. Et puis, pour le Nouveau Testament, il me semble que nous correspondons à l'époque des Corinthiens. La ville de Corinthe, dans cette espèce d'opulence intellectuelle, financière et occulte et de dérèglement, une opulence dans toutes les directions, dans toutes les expressions de la vie humaine décadente. Alors nous vivons pour ces périodes-là. Mais Dieu a fondé des églises, il a sauvé des âmes. Alors nous sommes invités à courir dans cette carrière. Il est dit, nous donc aussi. Suite à cette nuée de témoins, il nous est demandé de suivre cette nuée, de rentrer dans cette nuée et d'en faire partie. Après tout, chacun d'entre nous, nous sommes la nuée de témoins modernes du 20e et 21e siècle. Enfin, je dis 20e parce que le Seigneur m'a sauvé, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez dû être sauvés au 20e siècle. et puis peut-être que vous, les plus jeunes, vous êtes sauvés au 21e siècle. Mais nous rentrons dans cette nuée. Et quel est le témoignage que nous recevons? Nous sommes des témoins portant un témoignage. C'est le témoignage de Dieu qui nous dit par son Esprit Saint, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des témoins bénéficiant d'un témoignage, qui est le témoignage divin, qui va nous permettre de persévérer. Parce qu'après tout, nous ne recevons pas simplement le témoignage des uns et des autres, mais avant tout, le témoignage de Dieu dans nos cœurs, dans nos âmes, par l'Esprit Saint et la parole qui nous a été accordée. Ensuite, nous sommes des témoins les uns pour les autres. Ce matin, nous avons prié nous sommes réjouis pour le projet que Dieu donne à nos amis d'aller en Gaspésie. Mais nous sommes aussi des témoins, simplement par notre présence dans cette église, dans ce bâtiment, parce que l'église c'est nous, les pierres vivantes. Et donc nous sommes témoins les uns pour les autres. En tous les cas, je ne sais pas si je suis un témoin pour vous, mais vous l'êtes pour moi. Je vous vois année après année, c'est mon 19e voyage au Québec, et je retrouve des bien-aimés qui ne vieillissent pas et qui sont renouvelés par le Seigneur dans cette vie de persévérance. Et puis vous êtes et nous sommes des témoins pour les non-croyants. Là où vous êtes placés, là où vous vivez, là où vous travaillez, vous êtes des témoins. Et donc nous rentrons ainsi dans cette grande nuée de témoins. Nous participons à ce témoignage que Dieu a décidé de nous communiquer et à cette transformation qu'il a accordée dans nos vies en Jésus-Christ, que les hommes et les femmes qui ne le connaissent pas discernent. Après tout, quand vous êtes au contact avec des non-chrétiens, vous le savez, ils respirent la bonne odeur de Jésus-Christ. Ils vous regardent et ils respirent quelque chose. Et il faut que nous en soyons conscients, parce que c'est un encouragement extraordinaire de savoir que nous sommes des témoins pour la gloire de Dieu, pour les choses saintes et glorieuses, pures et parfaites, tout en étant enfermés dans un corps limité. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que, étant ce que nous sommes, comme disait l'apôtre Paul, je suis ce que je suis, mais la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine, eh bien c'est valable pour chacun d'entre nous. Et dans nos corps mortels, dans cette limite que Dieu nous impose pour le moment, nous sommes des témoins qui répandons la bonne odeur de Christ autour de nous. Et c'est pour ça qu'il y a une exhortation volontariste, en quelque sorte, vigoureuse. Courons avec persévérance, verset 2, dans la carrière qui nous est ouverte. Je me suis rendu compte que les Québécois étaient des gros travailleurs. Parce que tous les Québécois, quand je discute avec eux, ils me disent tous: j'ai eu une grosse journée. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Et puis un jour, quelqu'un m'a dit, oui, ça va prendre une grosse demi-heure. Alors pour nous, en France, une demi-heure, c'est 30 minutes. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça peut bien être qu'une grosse demi-heure? Et on m'a dit, c'est 33, 35 minutes, une grosse demi-heure. Alors, comme je suis français, je me suis dit, si une grosse demi-heure, c'est 33 à 35 minutes, une grosse journée, ça ne doit pas être si terrible que ça. Mais, néanmoins, je reconnais que vous êtes des travailleurs. Et vous avez une carrière professionnelle, une carrière familiale. J'ai eu une carrière professionnelle, j'ai une carrière familiale, j'ai une carrière spirituelle. Et les deux se marient et se juxtaposent, se superposent. Mais c'est extraordinaire de savoir que nous sommes invités à la persévérance comme carrière. La carrière qui nous est ouverte, c'est pas la réussite sociale. C'est la glorieuse réussite d'une vie consacrée. C'est autre chose. Et c'est une carrière qui est remarquable parce que c'est une carrière qui va nous apporter une totale satisfaction dans une situation contradictoire. Ma vieille nature diminue au profit de la nouvelle, il y a donc une perte de la vieille nature, Donc c'est une carrière où on va perdre quelque chose pour recevoir quelque chose de glorieux à la place. Et c'est tout le cheminement de la vie chrétienne. Avec pour objectif, portant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Notre Seigneur Jésus-Christ a connu ce que nous connaissons et bien au-delà de ce que nous pouvons connaître. Dans son incarnation en tant que Dieu fait homme, notre Seigneur Jésus-Christ a été opposé à toute la puissance démoniaque, le déferlement de la puissance démoniaque s'est opposé à la personne de Jésus-Christ. Il a dû, en tant que Dieu fait homme, dans les limites de ce qu'il a accepté pour partager en quelque sorte cette dimension qui est la nôtre afin de pouvoir nous sauver, il est le seul face auquel toute la puissance démoniaque s'est déchaînée. S'il y en a un qui sait ce qu'est la puissance démoniaque à son maximum, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que lui, il est capable de nous permettre de persévérer, parce qu'il a ouvert la voie, il a été vainqueur face au déchaînement diabolique. Il a été rappelé ce matin dans la première partie de notre culte, ce moment d'adoration, par plusieurs frères, de cette attitude machiavélique, de cette manipulation que l'adversaire a tenté de développer pour empêcher que le Seigneur monte à la croix ou sur la croix, et qu'ensuite, une fois monté, cloué dessus, qu'il puisse en descendre. Ça a été des heures de douleur, d'opposition farouche, avec, pour le Seigneur Jésus-Christ, la connaissance de ce qu'il allait devenir péché pour nous. C'est-à-dire un degré qu'on n'arrive même pas à sonder. Vous imaginez que celui qui, vers lequel il nous a demandé de tourner nos regards est celui qui a connu tout ce que l'on peut connaître, d'horreur, d'infamie, de violence, de pourriture. Et c'est pour ça qu'il nous est demandé de faire comme lui, mépriser l'ignominie et de regarder au ciel pour connaître la joie, haute paradoxe, la joie dans une vie de consécration et dans une vie de foi persévérante. Il y a des périodes bénies et heureuses dans la vie chrétienne, il y a des périodes bénies et heureuses avec des difficultés. Et il nous est demandé de traverser ces choses en regardant à l'invisible. Ce qui est remarquable, c'est quand les Saintes Écritures nous demandent de regarder au Seigneur Jésus-Christ, ces mêmes Écritures saintes nous font voir que le Christ lui a regardé aussi au Père. Et ainsi, le regard qu'il a porté au Père, il peut nous le communiquer pour qu'on puisse le porter sur lui. Il sait ce que c'est que la souffrance, il sait ce que c'est que la bêtise humaine, il sait ce que c'est que le péché, sans y avoir eu une once de participation, puisqu'il est resté parfaitement saint, il a été tenté en toute chose. Il sait ce que c'est que d'être un chrétien. Il connaît nos limites, nos difficultés, nos souffrances, nos douleurs. Il les connaît parfaitement. Et c'est pour cela que dans le livre des psaumes, il est dit que Dieu récolte dans son outre les larmes que nous versons. Et parce qu'il nous a précédés, alors il peut nous accompagner dans une vie persévérante. Et ainsi, ce que le Seigneur a accompli, nous pouvons à sa suite emprunter ce chemin royal et continuer de persévérer envers et contre tout. Considérez, est-il dit au verset 3, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Vous imaginez le Seigneur, le Créateur de toutes choses, le Créateur des créatures qu'il avait en face de lui, des créatures qui se moquent de leur Créateur, des créatures souillées qui prétendent à demander à leur maître et créateur de faire des choses qui sont contraires à sa sainteté. Vous imaginez cette situation de stupidité, de folie, d'orgueil auquel le Seigneur a dû faire face. Il pouvait, en un clin d'œil, balayer toute cette terre. Mais il ne l'a pas fait. Il est resté face à une bande de sauvages, de violents, de vulgaires. Il est resté face à eux. Et il a supporté une telle opposition. Le Seigneur nous encourage dans les périodes où nous aussi, où vous aussi, vous supportez de l'opposition, de la moquerie, de l'incompréhension, toute forme de stupidité et d'exprimer à cause d'un aveuglement spirituel de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et il nous dit, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Êtes-vous découragé? Alors nous avons la solution, nous tournons vers le Seigneur pour ne retrouver et être renouvelé dans notre foi en regardant au Seigneur et en quelque sorte en laissant de côté, en pouvant supporter, comme l'on dit en France, mais ça doit être une expression québécoise, de l'eau qui glisse comme sur les plumes d'un canard. Vous connaissez ça, vous, les canards? Spécialité de chez vous, ça. Eh bien, les souillures peuvent glisser sur nous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Parce que le Seigneur est capable de nous rendre forts et de nous permettre de vivre face à cette difficulté. Chose étonnante, c'est que face à des chrétiens ou des croyants découragés, nous trouvons le verset 4 où il nous est dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché ». Je ne sais pas si vous vous attendez, lorsque vous êtes dans la difficulté, à ce genre de réflexion. En France, les chrétiens du XXIe siècle, pour un bon pourcentage d'entre eux, réclament beaucoup de douceur, de ménagement. Si vous voulez un peu hisser le niveau de la vie spirituelle, de la sanctification, du don de soi, de l'oubli de soi-même, vous vous heurtez parfois à des réactions un petit peu surprenantes pour des chrétiens. Ils ne veulent plus souffrir, ils ne veulent plus avoir d'opposition. Ils veulent que tout se passe bien, le confort, tranquille. Ça n'existe pas. Les perdus ne sont pas tranquilles. Les chrétiens non plus. Parce que nous sommes sauvés, mais nous sommes dans un monde extrêmement dur. Être une créature, c'est difficile. Simple fait de vivre sur cette terre, dans un monde déchu, c'est difficile. Et le fait d'être chrétien, ça arrange beaucoup de choses, parce que nous vivons cette relation avec notre Créateur. Mais il n'empêche que les limites dans lesquelles nous sommes contenus nous amènent à nous rendre compte que oui, être chrétien, ce n'est pas toujours facile, surtout quand on est minoritaire. La période des réveils des années 70-90, ça me semble avoir changé chez vous. Pour tourner dans la belle province, je peux vous dire que, bon, je vois que vous faites comme nous, de la pêche à la ligne. Il y a des conversions en France, il y a des conversions au Québec, mais ce n'est plus la grande période des centaines de gens qui se convertissaient à chaque message. Et nous sommes, nous, appelés, vous ici, nous, de l'autre côté de l'Atlantique, appelés à vivre la foi dans ces situations-là. Moi, j'ai connu une période de réveil à Paris Nation. Une âme sauvée toutes les semaines, Alain Chouéquier a dû vous en parler en son temps. C'est plus le cas. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va baisser les bras et se désespérer. Le Seigneur est capable de faire des miracles et de sauver des âmes. Et il le fait. C'est plus par centaines pour le moment. C'est à l'unité, parfois à la dizaine. Mais il nous est demandé à nous de regarder au Seigneur et de nous rappeler que nous n'avons pas encore eu à lutter jusqu'au sang. Et le Seigneur nous rappelle que certains, enfin lui-même a lutté jusqu'au sang contre le péché pour nous racheter. Et puis il y a aussi Étienne, dans le livre des Actes, qui est un des premiers martyrs, et qui nous rappelle que, oui, nous pourrions être invités par Dieu à vivre de ces situations dont porte ouverte cette mission auprès de l'Église persécutée nous parle quand il nous envoie le fil rouge. Vous connaissez le fil rouge, le courrier, hein, qu'on reçoit à peu près deux lettres par mois, et à peu près. Hein. Et quand je lis ces courriers, ces informations, je me dis, ok, moi je suis protégé. Je ne connais pas les difficultés que ces bien-aimés connaissent dans d'autres contrées. J'ai participé au congrès mondial des assemblées de frères qui avait lieu à Strasbourg, en France, en Alsace, au mois de mai dernier. Et vous savez, ce qui m'a étonné, c'est que j'ai rencontré un frère d'Indonésie, un chrétien indonésien, donc un pays pratiquement 100% musulman. Et je lui ai dit, mais comment ça se passe là-bas dans ton pays? Et il m'a dit, Jean, quand je sors de chez moi, il arrive que je trouve un jerrican d'essence devant ma porte. Ça veut dire, si tu continues, on va brûler ta maison. Ils ont déjà brûlé des églises. Il dit, j'ai quitté mon pays pour venir au congrès mondial des assemblées de frères. Il dit, je ne sais pas si je vais retrouver ma femme et mes enfants et ma maison. Et vous savez ce qu'il m'a dit, ce frère? Il m'a dit, et toi, comment ça se passe? Complètement préoccupé par les autres, vivant une situation d'opposition farouche qui peut mener à la mort, et tourné vers des chrétiens occidentaux, français, et il se préoccupait de mon ministère. Et je me suis dit, quelle différence il peut y avoir entre lui et moi. Je ne risque rien à ce jour, et vous non plus que je sache. Alors n'oublions pas cette exhortation, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Et puis pour ceux qui trouvent que la vie chrétienne est difficile, parce que le Seigneur s'occupe d'eux, alors il y a ce passage des versets 6, fin du verset 5, verset 6 à verset 11, qui nous parle de cette façon que Dieu a de nous former, de nous transformer, de nous équiper. Parce qu'il y a l'opposition extérieure que le Seigneur Jésus-Christ a rencontrée et que ceux qui nous ont précédés dans le chapitre 11 ont également connu. Mais il y a aussi les difficultés liées à l'œuvre de Dieu dans nos vies, au châtiment que Dieu a choisi de nous accorder pour nous faire participer à sa sainteté. Et si nous ne comprenons pas ce travail de Dieu dans nos vies, nous pourrions nous décourager ou mépriser justement cette éducation. C'est ce qu'on appelle l'éducation vue sous l'angle de la souffrance. L'éducation, dans ce passage, c'est un moyen de croissance en vue d'une réelle maturité. La maturité chrétienne ne peut pas s'acquérir simplement quand tout va bien. La maturité chrétienne, Dieu s'en charge. Et quand on est dans un pays comme le vôtre, riche, encore protégé, confortable, alors Dieu va faire une œuvre dans la vie de chacun d'entre nous pour nous rendre sensibles à certaines réalités et pour nous faire progresser avec l'ensemble du peuple de Dieu. Nous sommes des myriades de myriades et nous allons tous dans une progression qui s'appelle la sanctification progressive. Il n'y a rien de semblable. Ah, j'ai appuyé sur le bouton, excusez-moi. Comme vous dites, c'est beau. Ma femme me dirait, Jean, arrête de parler avec une main dans la poche. Elle aurait raison. Elle me dit, c'est pas élégant. Mais j'arrive pas à l'écouter. Bon. En plus, elle est pas là. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Vous le savez, puisque vous êtes pour la plupart d'entre vous des parents, ou vous allez le devenir, si j'ai bien compris, à moins qu'il y ait déjà des enfants. Waouh ! Ok. C'est bon. Il n'y a pas de véritable amour paternel sans éducation. D'ailleurs, il n'y a pas de véritable amour sans éducation. L'amour n'est pas permissif. L'amour vise le bien de celui qui est aimé. Et par voie de conséquence, l'amour va placer ce qu'on appelle des interdits, des conditions. Et c'est à ce titre que le Seigneur agit de la même manière. Il n'y a pas d'éducation sans souffrance, puisque toute éducation exprime dans certains aspects de son œuvre des limitations. Ne fais pas ça, ne touche pas à ça, ne te comporte pas comme ça. Et donc ça donne un cadre de limites qui entraîne des frustrations. Vous savez combien les Français modernes peuvent être frustrés parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation, où on leur a appris à se tenir, et combien des adultes français sont capricieux et se comportent comme des enfants, comme l'on dit, mal élevés. Dieu ne veut pas d'enfants du Seigneur mal élevés. Alors il va nous donner une éducation et parfois il va nous faire passer par des situations au travers desquelles nous allons recevoir sagesse et intelligence des choses. N'oublions pas que la nécessité de la correction, elle relève de l'imperfection de l'être à éduquer. Nous sommes tous imparfaits et Dieu ne va pas se priver de nous éduquer et donc de nous faire passer par différentes situations. Maintenant, ce texte qui nous est donné indique deux comportements. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Fin du verset 5. Ce texte, il dénonce donc deux attitudes erronées dans l'épreuve de la correction. Premier sentiment erroné, c'est le fait de mépriser ou de minimiser la correction de Dieu. Vous avez des chrétiens qui, je parle des chrétiens français, hein, vous avez des chrétiens qui ne réfléchissent jamais vraiment profondément à ce qui leur arrive. C'est comme si ils traversaient les difficultés sans en comprendre le sens. Une forme de fuite, de refus de réfléchir et de discerner ce qui se passe. C'est donc un comportement méprisant, mais ça peut aller plus loin. Si jamais l'orgueil dans la vie du chrétien se rajoute à cette situation, alors il y a un refus même et un mépris de l'éducation que Dieu est en train d'accorder à son enfant. Mais à l'inverse, on pourrait être découragé. C'est-à-dire ressentir si fortement cette correction de Dieu, ce châtiment de Dieu, qu'on en serait écrasé et qu'on pourrait sombrer dans le découragement. Ce qui est intéressant dans les Saintes Écritures, c'est cet équilibre permanent que Dieu nous donne au travers du texte inspiré. Ne méprise pas, ne te décourage pas. J'ai compris que les Québécois, vous êtes un peuple extrêmement sensible. Limite à fleur de peau, comme on dit chez nous. C'est incroyable, l'autre fois j'étais partout où je suis reçu, quand je quitte la maison où j'ai reçu l'hospitalité, ils pleurent. Quand je quitte ma femme, elle pleure pas. Mais ils pleurent, c'est incroyable cette sensibilité que vous avez, qui est une qualité quelque part. C'est pas péjoratif ce que je dis. Sensibilité, c'est une qualité. Hein. Mais vous pourriez être découragé. Et pour avoir discuté avec certains chrétiens québécois, je me rends compte que le découragement est également parfois à fleur de peau. Ça va avec l'hypersensibilité. Et donc, je me permets de vous dire ça, je ne suis pas un spécialiste du Québec ni des Québécois. Je suis un frère en Christ. Mais pour constater les mêmes choses dans certaines vies de chrétiens français ou d'ailleurs, je me dis, c'est extraordinaire que le Seigneur nous ait donné cet enseignement. Ne te décourage pas quand le Seigneur te reprend. Parce qu'il nous reprend, comme le dit le texte inspiré, pour nous faire participer à sa sainteté. Il est dit au verset 9, « D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés pour que et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des Esprits pour avoir la vie ?» Vous avez remarqué cette bascule ? Respect pour les parents qui nous ont éduqués et châtiés. Soumission au Père. En grec, c'est subordination. La subordination, c'est une soumission volontaire. Un chrétien mature, c'est un chrétien qui va comprendre le sens du châtiment que Dieu lui donne, qui va même instinctivement comprendre que Dieu est en train de faire une œuvre dans sa vie, une œuvre de sainteté, une œuvre de sanctification. Au lieu de mépriser ou de se décourager, le chrétien mature va se dire « Ok, je ne sais pas pourquoi cette chose m'arrive, mais je suis entre les mains de Dieu » et ça va déboucher sur quelque chose de bon, d'agréable et de parfait. C'est pour cela que le texte inspiré nous dit à la fin du verset 11 « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. » Le chrétien mature va d'abord discerner la joie que la tristesse. Parce que le chrétien mature marche dans la foi, dans la confiance en Dieu. Et si je ne comprends pas ce qui m'arrive, sachant que je suis dans les mains du Seigneur, alors ce qui m'arrive va déboucher sur quelque chose de bon. Donc c'est un sujet de joie que d'être entre les mains de Dieu et d'être façonné par le Seigneur. Et c'est pour ça que le texte inspiré nous dit « Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice ». L'éducation divine procure chez nous une paix, un calme, une profondeur, une intelligence des situations, une intelligence par rapport à ce que, une intelligence, c'est-à-dire une compréhension de ce que Dieu est en train d'accomplir, de ce que Dieu a fait dans notre passé, de ce qu'il va faire dans notre présent et de ce qu'il fera dans notre futur. Et ça, ça donne des chrétiens stables, équilibrés, profonds, capable de recevoir toutes sortes de difficultés et de pouvoir les gérer, les discerner le sens des choses. Et c'est pour cela que si nous avons souffert il y a quelques années en arrière dans notre vie chrétienne, le Seigneur nous a équipés d'un discernement, d'une sagesse, d'un équilibre, qui va nous aider pour nous-mêmes et qui va nous permettre d'aider les autres. Parce que quand d'autres viennent vers nous en nous racontant ce qui leur arrive, alors on peut discerner ce que Dieu est en train d'accomplir dans leur vie. Et c'est profondément encourageant. Et pour terminer, puisque c'est super, je vais être dans les... Comment vous dites là? Dans les quoi? Dans les temps? Vous n'avez pas une autre expression? J'ai entendu autre chose, mais je ne me souviens plus. Dans le cadre, ou je ne sais plus quoi, là. Ok. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Après avoir éclairé le croyant sur ce que des frères et des sœurs dans l'ancienne alliance ont vécu pour cette foi, fidélité, après avoir demandé aux croyants de porter les regards sur Jésus et d'avoir exprimé ce que le Seigneur lui-même a souffert, a connu, et dont il est capable de nous communiquer cette résistance et cette sainteté qui a été la sienne. Après avoir exposé que Dieu effectivement nous châtie parce qu'il nous aime, et il le fait avec intelligence, avec profondeur, et avec évidemment amour, alors il y a un appel qui s'exprime de la manière suivante. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Il n'est pas évidemment ici question, comme vous l'avez compris, d'un comportement physique. Le fait de boiter physiquement, ça peut arriver chez des chrétiens, peuvent être handicapés, mais là, il est plutôt question d'un handicap spirituel et moral. Il lui est demandé, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, et les versets 26 et 27, le Seigneur nous invite à avoir un comportement profond, intelligent et spirituel. Il dit « Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. » Nous sommes invités à titre individuel à réfléchir à nos comportements, à réfléchir à nos choix et à réfléchir au fait que nous sommes invités à rentrer dans cette carrière qui nous est ouverte, c'est-à-dire vivre pour Christ et pour personne d'autre. Et quand on dit personne d'autre, c'est pas simplement des personnes extérieures à nous, mais c'est ne pas vivre pour nous-mêmes, que nous ne devenions pas quelque part notre propre idole. Et il nous est demandé donc de nous fortifier nos mains languissantes et nos genoux affaiblis. Pourquoi ? Parce que quand ceux qui boitent, spirituellement parlant et moralement parlant, les frères et les sœurs plus faibles, plus fragiles dans la foi, peut-être éventuellement plus jeunes, mais pas toujours. Il y a des chrétiens qui ont des décennies de relations avec Dieu et qui sont des boiteux. Eh bien, quand ces derniers vont regarder les témoins que nous sommes, les uns pour les autres, et qu'ils vont voir chez nous une sainteté, une paix, une joie, une maturité spirituelle, des qualités morales que nous allons exprimer dans tous les aspects de la vie, alors le boiteux va pouvoir se redresser parce qu'il aura l'exemple des frères et des sœurs qui vont l'attirer vers les choses justes, bonnes et saintes. Mais si ceux qui doivent être des modèles ont toujours les genoux affaiblis, alors le boiteux verra son handicap augmenter. Et c'est ainsi que l'on passe de la responsabilité individuelle à la solidarité communautaire. Nous sommes, vous êtes, pour votre communauté, ici au Cap de la Madeleine, responsable de votre qualité de vie, parce que nous sommes et vous êtes responsable de la qualité de vie morale et spirituelle de la communauté du Cap de la Madeleine, de la sainteté et de la puissance de l'Église que Dieu a bâtie ici. Vous êtes responsable pour vous-même et vous êtes responsable pour tous. Alors que Dieu nous conduise dans ce regard vers le Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions grandir dans cette sanctification et marcher de progrès en progrès. Je vais terminer par la prière, si vous permettez. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous donnes, comme le dit l'apôtre Pierre dans son épître, tu nous donnes tout pour que nous puissions grandir, nous affermir, faire partie de cette nuée de témoins qui va encourager les perdus et aussi les frères et les sœurs en Christ. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce que tu es capable d'accomplir dans la vie de chacun d'entre nous, au-delà de ce que nous espérons ou pensons. Seigneur, qu'il en soit ainsi dans ma vie, dans la vie des bien-aimés ici présents, dans la vie de tous les membres de cette communauté, dans la vie de tous ceux qui t'appartiennent. Seigneur, glorifie-toi au travers de chacun d'entre nous et de la totalité de ton corps local pour la gloire du Père. Amen.